VOA Afrique, les infos. À Washington.
Georges Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le pape a terminé aujourd'hui sa visite au Mozambique par un rendez-vous privé avec les marginalisés du sida, fléau persistant dans le pays, avant d'être accueilli dans un stade en Delhi où il a lancé un dernier appel à la paix en fustigeant l'esprit de vengeance. Clameurs de joie, cause folle et danse rythmée ont marqué l'arrivée de la Papa Mobile où se dressait la silhouette blanche du pape dans un stade d'une périphérie déshéritée de Maputo, la capitale où 60 000 fidèles ont convergé selon les organisateurs. Après la célébration d'une messe dans le stade de Zimputo, le souverain pontife quitte le Mozambique pour la deuxième étape de son voyage africain, la grande île de Madagascar dans l'océan Indien. Et la nouvelle du jour, l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, qui a dirigé d'une main de fer son pays de 1980 à 2017, est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé ce matin le chef de l'État Emmerson Mnangagwa, pendant son règne de 37 ans à la tête du Zimbabwe jusqu'à sa chute en 2017. Robert Mugabe est passé du statut de héros de l'indépendance et ami de l'Occident à celui de tyran qui a provoqué l'effondrement économique de son pays. Un rappel avec Michel Joseph.
Robert Mugabe avait pris les rênes de l'ex-Rhodésie, devenue indépendante en 1980. Lâché par l'armée et son parti, il a été contraint à la démission en 2017 après le limogeage de son vice-président Mnangagwa, sous la pression de son influente épouse Grace, qui s'invite dans la course à sa succession. Il a laissé un pays englué dans une profonde crise économique qui ne cesse d'empirer. Sa politique de réconciliation au nom de l'unité du pays lui a valu, après l'indépendance, des louanges générales, particulièrement dans les capitales étrangères. Bardé de diplômes, le révolutionnaire Mugabe apparaît comme un dirigeant modèle. En 10 ans, le pays progresse à pas de géant. Construction d'écoles, de centres de santé et de nouveaux logements pour la majorité noire. Très tôt, pourtant, le héros a la main lourde contre ses opposants. Dès 1982, il envoie l'armée dans la province dissidente du Matabeleland sud-ouest, terre des Ndebele, et de son ancien allié pendant la guerre, Joshua Nkomo. La répression brutale fait environ 20 000 morts, mais le monde ferme les yeux. Il faudra attendre les années 2000, ses abus contre l'opposition, des fraudes électorales et surtout sa violente réforme agraire pour que l'idylle s'achève. Robert Mugabe a survécu moins de 2 ans à peine après son humiliante démission en novembre 2017 sous la pression de l'armée.
Merci Michel. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué en Robert Mugabe un combattant de la libération et un champion de la cause africaine contre le colonialisme. La Chine a également salué en Robert Mugabe un dirigeant exceptionnel après l'annonce de la mort de l'ex-président du Zimbabwe, dont Pékin fut l'un des rares alliés. Le premier ministre du Soudan a rendu public les 18 membres de son gouvernement, dont 4 femmes. La première priorité est de mettre un terme à la guerre et de construire une paix durable. L'autre défi sera de relever l'économie. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Khartoum le correspondant de VOA Afrique, Salah Mohamed El Hassan.
Oui, selon la liste qui est devant moi, il y a des représentants de toutes les régions du Soudan, du Nord, de l'Est, du Centre, de Kordofan, de Darfour, les régions en général. Mais on parle encore toujours de quotas entre partis politiques, surtout la nomination de M. Medeni Abbas qui a été contestée parce qu'il faisait partie de l'équipe pour parler des forces de liberté et de changement. Et puis il y a un autre ministre qui a été contesté, qui a été enlevé de la liste, parce qu'il avait des relations avec le parti du Congrès national de Mère Béchir. La liste comprend 4 femmes, dont la ministre des Affaires étrangères, Madame Asma Mohamed Abdallah, qui n'était pas dans les listes des forces de déclaration de liberté et de changement, mais qui a été choisi par M. Abdallah Hamdok lui-même.
S'agit-il des visages déjà connus ou c'est un gouvernement de rupture avec les Béchir?
C'est un gouvernement de rupture avec avec le régime de Béchir. Mais il y a des gens qui sont bien que nous, chacun dans son domaine.
Le Premier ministre Hamdok a parlé des conflits qui rongent les États du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud. Est-ce qu'il a dit comment il compte les aborder?
D'abord, le processus de paix, la première priorité de ce gouvernement. Les 6 premiers mois seront consacrés à la recherche de paix, à des pourparlers de paix avec les mouvements et les factions armées de Darfour, de Kordofan, des sud de Nil Bleu. Alors, là, c'est plutôt positif. L'atmosphère à Khartoum, tout le monde est content. Il y a même des petits groupes, des jeunes qui sont sortis dans la rue pour célébrer, pour fêter.
Salah Mohamed El Hassan, le correspondant de VOA à Khartoum. En République démocratique du Congo, manifestation à Kinshasa après celle enregistrée à Lubumbashi en réaction à la vague de xénophobie meurtrière en Afrique du Sud. Un sit-in devant l'ambassade sud-africaine a été dispersé par la police qui a aussi bloqué une tentative de pillage de quelques intérêts sud-africains. 16 personnes ont été interpellées. Le point avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Plus de 300 personnes ont tenté de piller jeudi soir le supermarché Shoprite, un des commerces tenus par les Sud-Africains à Kinshasa. La police, qui est vite intervenue sur place, a usé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Son numéro 1, le général Silvano Kasongo, qui a annoncé 16 interpellations parmi les manifestants, signale par ailleurs que des mesures de sécurité ont été renforcées autour de l'ambassade et de quelques intérêts sud-africains dans la capitale de la RDC. Ce dispositif sera, selon lui, maintenu vendredi, car d'autres manifestations ont été annoncées. Jeudi matin, pour rappel, un groupe de jeunes avait déjà tenté de casser la barrière de l'ambassade sud-africaine située dans la commune de la Gombe avant qu'il ne soit maîtrisé par la police. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Jour de procès au Cameroun avec le procès de Maurice Kamto qui s'ouvre aujourd'hui à Yaoundé. L'opposant arrivé en deuxième position à l'élection présidentielle de 2018 est jugé aux côtés de 90 de ses partisans pour insurrection par un tribunal militaire de Yaoundé. Ses opposants, qui ont déjà passé plus de 7 mois en prison, risquent la peine de mort. Parmi les accusés qui comparaîtront aux côtés de M. Kamto figurent Christian Penda Ekoka, ex-conseiller économique du président Biya, et un célèbre rappeur, Valsero, connu pour ses thèses critiques à l'égard du régime de Yaoundé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Hors du continent, l'Iran a annoncé aujourd'hui qu'il s'affranchissait des limites fixées à son programme nucléaire en matière de recherche et développement, rapporte l'agence de presse ISNA, citant le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Cette mesure est la troisième étape de son désengagement progressif de l'accord de 2015 en riposte au retrait des États-Unis en mai 2018 et au rétablissement des sanctions américaines qui avaient été levées après la négociation du plan d'action global, le nom officiel de l'accord de 2015 signé à Vienne. L'ouragan Dorian est arrivé hier au large des États-Unis, longeant vers le nord les côtes de la Caroline du Sud, où il a provoqué des inondations et des coupures d'électricité après avoir dévasté les Bahamas, où le bilan s'est alourdi à 30 morts. Plus de 260 000 habitations et commerces ont été privés d'électricité dans la soirée en Caroline du Sud et en Géorgie. L'état d'urgence a été déclaré dans les Carolines et en Virginie. Les écoles ont été fermées, des abris ouverts. La garde nationale se tient prête pour intervenir. Et dans les seules Carolines, plus de 900 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leur foyer. 4 décès liés à la dépression ont été signalés aux États-Unis. Enfin, la Corée du Nord, soumise à des sanctions et jugeant que l'aide internationale ne tient pas ses promesses, a demandé le mois dernier à l'ONU rétive de réduire ses effectifs dans le pays. Une requête en cours de discussion entre les deux parties. Selon l'organisation, l'ONU compte quelques dizaines de membres en Corée du Nord. Jean-Roger Billon, le prochain journal vous sera présenté par Harry Francis. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.